Ce soir, j'aimerais vous partager une réflexion sur la générosité. Le Bouddha a parlé de la générosité comme du plat en verre qui contient tout. Et c'est sûr que juste maintenant, nous pouvons sentir ce donner-recevoir. Qu'est-ce qui est plus précieux quand je donne ou quand je reçois? Et c'est bon de conscientiser cette générosité, de la développer, parce que lorsque nous sommes généreux, il y a une absence de... Qui les a? Il y a une absence d'obstacles. Peut-être pas totale, mais... Et... Si certains ont plus de facilité à donner, d'autres plus à recevoir, il y a des personnalités qui naturellement sont plus généreuses que d'autres. Ça, c'est le monde. Heureusement qu'il y a de tout. Heureusement qu'il y a des gens moins généreux qui sont là pour qu'on leur donne. La générosité, ça n'est pas seulement du matériel, c'est tout ce que nous recevons dans l'instant, juste recevoir l'air que nous respirons, conscientiser, quel cadeau, un sourire de quelqu'un, un regard fraternel, quelqu'un qui nous donne du temps. C'est dommage de ne pas bien remarquer cette générosité qui est là. Parce que ça fait du bien. Lorsque nous développons des habiletés, la personne qui sait faire à manger, travailler le bois, faire des maisons, et qui offre toute cette générosité, et dans l'art, lorsque nous écoutons un beau concert, là juste avant de venir, je suis allée écouter un opéra de Tchaïkovski avec des solistes russes et puis le chœur de l'opéra de Lausanne qui était dirigé par un chef russe. C'était incroyable. La force, la beauté, la connexion. En fait, la rencontre dans cette générosité des voix, c'est très touchant. Pas seulement la musique, mais les arts plastiques. Je me souviens à Giannada, il y avait Roger Mort qui fait des énormes statues. Il avait fait une énorme bonne femme en laiton. Puis comme elle était posée au sol, elle était juste posée, ça lui donnait une légèreté. Et en fait, ce qui est beau, c'est que il y a cet équilibre entre, on pourrait dire, la douleur et la joie, entre la lourdeur et la légèreté. Dans l'art, il y a cette recherche de libération, mais dans l'incarné, ce sont des moments de grâce, dans la poésie aussi. parole de Mozart que je trouve tellement belle. La grande musique va chercher au fond de nous-mêmes le chagrin secret qui nous dévore. Joie et chagrin se fondent l'un dans l'autre et combinent si bien leurs sortilèges que la joie devient douloureuse et le chagrin exquis. Cette musique nous fait entendre une harmonie sereine et pathétique en même temps, une paix troublée par l'aveu d'une secrète nostalgie, un bonheur calme et large qui s'échafaude sur le drame maîtrisé, dompté. Nous vivons du recevoir et donner. Il y a Frédéric de Prusse qui a fait une fois une terrible expérience. Il parlait plusieurs langues et puis il voulait savoir quelle est la langue de base de la nature humaine. Donc il a demandé à des nourrices de prendre plusieurs enfants, je ne sais plus combien, et de leur donner des très bons soins, mais de ne pas leur parler, de ne pas les caresser, de seulement leur donner des soins. Et les enfants sont tous morts. Et combien il y a de générosité dans l'interrelationnel. Et quand je dis l'interrelationnel, ce n'est pas seulement moi et les autres, mais c'est aussi moi et moi. Trouver cet équilibre entre ce que nous donnons à l'extérieur et ce que nous nous offrons à nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est important d'être attentif à comment nous parlons, ce que nous disons, quel est le ton de la voix. Nous pouvons faire très mal avec nos paroles. Nous pouvons tuer l'autre avec nos paroles. Et la générosité, c'est se souvenir que nous avons une puissance et que cette puissance, elle peut être employée d'une manière ou d'une autre. Pour que ce cœur sensible soit protégé, soit respecté. La louange et le blâme, c'est extrêmement puissant. Autant ça nourrit, ça fait du bien, ça nous porte, ça permet de développer nos potentiels. Et lorsque nous sommes toujours blâmés, quelque chose s'éteint à l'intérieur. Dans le dialogue conscient, on voit bien comment nous recevons et nous donnons autant dans le silence que dans la parole. Renoncer, c'est aussi un don précieux. Et puis, il y a cette générosité du Dharma. Dans une retraite, tout ce que nous faisons est important, nos réalisations, nos efforts. Mais ce qui nous nourrit particulièrement, c'est le silence. La parole est toujours limitée par rapport au silence. Lorsque nous écoutons le silence, que nous le laissons nous toucher, il y a quelque chose de grand. C'est comme dans la nature a une générosité exceptionnelle. Lorsque nous sommes face à l'océan, ou face aux hautes montagnes, ou juste face à un arbre, une petite fleur, et le règne animal, combien nous recevons du règne animal, combien nous nous émerveillons des hirondelles, d'une petite bête sauvage qui tout à coup rencontre notre chemin. Elle nous offre sa présence, son être. Nos animaux domestiques, moi j'adore mon chien. La méditation s'appelle un chemin avec le cœur. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans ce cœur de l'agréable et du désagréable, pas du tout. C'est ce cœur qui est pure réceptivité. Et dans cette pure réceptivité, il y a un total don. Et nous touchons à ça dans une retraite. Nous touchons à ce meilleur de nous-mêmes. Nous aidons les uns les autres dans ce meilleur de nous-mêmes. Et lorsqu'il y a la générosité, on peut sentir cette absence de qui les a, cette absence de sens du moi fermé et tout soit fermé dans le vibhava tanha, je ne suis pas assez, je devrais, les autres sont mieux, moi, je suis faillible, j'ai pas envie d'être vu, j'aimerais disparaître. Ou bien dans le bhavatana, je viens dans l'arrogance. Moi, je veux exister, je suis là, les autres, tant pis. Il y a autant de sens du moi dans l'un que dans l'autre. Et la générosité, c'est de reconnaître quand c'est là. Oh, là, il y a un petit peu d'arrogance. Il y a un petit peu beaucoup de moi. Oh ben là, dis donc, waouh, j'ose pas exister. Qu'est-ce que pensent les autres? Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Tout d'un coup, nous sommes à l'étroit. Ce sont deux aspects de la deuxième vérité, tanha, le désir. Nous avons parfois ce désir d'existence, regardez-moi, et parfois ce désir de non-existence. Surtout que je ne sois pas le point de mire, parce que franchement, je ne vaux pas la peine. Et nous pouvons sentir cette fermeture involontaire qui vient mettre à l'étroit notre générosité naturelle. Et lorsque nous sentons l'expérience, c'est un acte de générosité. Donc, d'une certaine manière, nous ne pouvons jamais manquer de générosité. Soit elle est disponible dans l'expérience, soit elle ne l'est pas, et alors nous retournons cette générosité à l'intérieur. Sati. Je vous lis une petite parole qui nomme cette générosité qui demande à être conscientisée. Dans notre effort, il y a quelque chose de tellement précieux. Quelquefois, nous ne pouvons pas voir comment nous en sortir ou comment passer au travers, parce que cela même est le chemin. Tout ce qu'il faut faire, c'est un pas de plus. Et encore un, et encore un. Nous sommes parfois à l'épreuve. Et peu à peu, nous apprenons que c'est le chemin. Et que l'épreuve est au fond plus riche que lorsque nous pouvons vivre le fruit. Donc il s'agit de revenir encore et encore, de voir quand il y a jugement, quand il y a culpabilité, quand il y a et quand il y a absence. Générosité de Sati. Le cadeau de présence qui ne peut être fait que maintenant. Il y a un don très important que j'ai déjà un peu abordé, c'est celui du non-attachement, celui du lâcher-prise, celui du ne rien faire. Accepter, s'accepter soi-même, accepter les défis de la vie, les défis du monde, accepter les autres tels qu'ils sont et pas tels que nous les aimerions. Thich Nhat Hanh dit, être beau signifie être toi-même. Tu n'as pas besoin d'être accepté par les autres, mais tu dois t'accepter toi-même. Reconnaître notre beauté intérieure, se donner cette générosité-là, c'est pas que nous soyons parfaits. Mais nous pouvons accepter que nous avons ce joyau à l'intérieur, le Dharma est là, et que nous sommes assez. Nous sommes largement assez tels que nous sommes tous. Peut-être que cette beauté du lâcher-prise, c'est la plus grande générosité. Parce que quand je fais ce geste-là, automatiquement je rejette le reste. Automatiquement je limite. Donc nous sommes dans cette qualité de Samma, Samma Sati, la pleine conscience juste ou sage, la concentration juste ou sage, l'effort sage, la compréhension sage, la pensée sage, c'est pas qu'elle soit maligne, sais que je la reconnaisse. Je sais la mettre à sa place. Et la parole sage, l'acte sage, mode de vie. La générosité inclut tout. Et ce mot sama, sage, c'est équilibré, bienveillant, équanime, mais c'est aussi généreux. Et c'est aussi déterminé. Samma, c'est pas quelque chose qui est juste la générosité, bon et bête, ça commence par la même lettre. C'est une bonté qui a du discernement. Savoir dire non, laisser le problème à l'autre, c'est aussi de la générosité. C'est même peut-être une générosité difficile. C'est le Bouddha qui disait, vous faites quoi quand quelqu'un vient et puis qui veut vous donner quelque chose qu'il n'aime pas, que vous n'aimez pas, ben, vous dites non. Ben, moi, c'est pareil. Si quelqu'un vient et puis qui me fait le cadeau de sa méchanceté, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Et ça, c'est une grande générosité. De renoncer à laisser le cœur être transpercé. C'est ma responsabilité. Le Bouddha dit, c'est pire de répondre à la haine par la haine que de haïr le premier. Pourquoi? Parce que en renonçant à répondre à la haine par la haine, vous sauvez deux karmas. Celui de l'autre qui n'a pas pu vous faire du mal et le vôtre qui n'a pas répondu. S'habituer à la non-réactivité. Que notre corps devienne comme la terre. Le Bouddha prend cette image. La terre, elle reçoit tout. Elle reçoit autant les déchets que les fleurs. Elle porte tout. Elle porte les énergies nucléaires. Elle porte la pollution. Elle ne se plaint pas. Nous devons apprendre à pouvoir avoir cette force intérieure de manière, si nous choisissons une générosité qui dit non, à dire un non qui soit un non sage, mais pas réactif. Parce que quelquefois, il faut mettre des limites. À l'autre, mais il faut d'abord les mettre à soi-même. C'est bien ça le problème. Toutes les guerres, ça vient de ça. Je vous lis la parole de Milarepa. Milarepa qui était ce moine qui a, sous les ordres de son maître Marpa, construit une tour, je sais pas combien de fois. Il construisait sa tour, puis Marpa lui disait, ça va pas, faut la défaire. Il la défaisait. C'est bon, il reconstruisait, il redéfaisait. Et il purifiait son karma, parce qu'il n'avait aucune réactivité. Et alors après, il a eu le droit d'aller dans sa grotte pour méditer. Il a écrit les joies de l'incertitude. Magnifique. Ces démons appelés kilesa, désir, avidité, envie, aversion, rage, angoisse, illusion, aveuglement, vide, ignorance, agitation et toutes les variantes des émotions perturbatrices sont des visiteurs puissants. Rejetez-les et ils reviennent avec encore plus de vigueur. Permettez-leur de venir et ils vous envahissent. Allons-nous une fois savoir comment nous libérer de leur emprise? Très peu d'entre nous ont le courage de prendre le thé avec leurs démons les plus profonds. Peu d'entre nous prennent leurs responsabilités et ont le courage de les regarder dans les yeux et de les voir pour ce qu'ils sont, des schémas profondément enracinés de réactivité que nous avons depuis longtemps ignorés ou rejetés ou que nous nous sommes appropriés. La générosité d'inviter nos démons à prendre le thé. Mais d'abord, il faut les voir pour ce qu'ils sont. Des énergies de l'ombre, mais des anges noirs, des anges. Qui me disent, mais regarde-moi, permets-moi à moi aussi de m'éveiller. Il ne faut pas croire que ces énergies de l'ombre ont envie de rester. Elles veulent bien partir, c'est à nous de les aider par la pleine conscience. Et combien nous faisons un travail de générosité lorsque simplement nous disons, il y a maintenant la confusion, il y a maintenant la peur, il y a maintenant la haine. Mais il faut le dire avec cette qualité de rencontre, de recevoir, donner. Eux me donnent de pouvoir donner. Il y a trois sortes de générosité. La première, c'est la générosité intéressée. Je donne parce que je suis redevable, ou bien parce que je veux que l'autre fasse quelque chose pour moi, ou je veux me faire bien voir, je veux être aimée, je veux... Quelque chose n'est pas complètement vide d'intérêt. Et dans l'exercice de la méditation, nous pouvons voir quand cette générosité est un peu entravée. Je fais metta parce que comme ça, je serai plus bienveillante. Ça ne sert à rien de rajouter ça. Au contraire. De faire metta pour rien, déjà c'est beaucoup plus agréable dans l'instant. Je le fais pour rien. Je le fais parce que je suis là et que je sens que c'est bon de faire ça maintenant pour moi. La bienveillance ne va pas venir parce que je la veux. Elle va venir parce que je pratique metta. Oui. Mais je n'ai pas besoin de rajouter ça que je veux. Ou, si je vois que je le veux, alors, ok, il y a metta, et puis il y a cet attachement au futur. Et en le mettant en lumière, je suis en pleine générosité. Je suis à nouveau dans la cible. Il y a la générosité fraternelle, celle que nous offrons à nos proches, aux gens que nous aimons bien, à nos maîtres. Elle est belle parce qu'elle est sans objectif, sans condition. Mais elle est limitée parce qu'elle est juste pour quelques personnes, celles que je préfère. Et dans la méditation, Tant que nous nous occupons des énergies perturbatrices, nous sommes dans cette générosité fraternelle. Je m'occupe de moi et c'est parfaitement juste. Nous ne pouvons pas nous occuper de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons que faire ça en nous. L'autre, rien. Je peux rien pour l'autre. Je peux que lui offrir ma présence, mon silence dans une retraite. Et si je fais ça, quelle belle générosité du lâcher-prise, du renoncement. Je ne vais pas... L'autre envoie quelque chose et ça tombe dans le silence et pas dans « Oh, il faut que j'aide. » Non, rien. Nous sommes en retraite. Donc, nous cherchons dans la méditation avec cette générosité fraternelle à entrer en amitié avec l'instant. Et puis, il y a la générosité gratuite, le don royal. C'est celui qui ne compte pas, qui se donne pour rien. Il n'y a pas quelqu'un et quelqu'un d'autre. Il n'y a pas moi et moi. C'est le dharma qui se donne au dharma. C'est l'énergie vitale qui se donne à l'énergie vitale. Et lorsque nous sommes dans cette qualité-là, c'est une équanimité, il n'y a pas de préférence. Et la conscience peut être intérieure et extérieure. Nous sommes juste là, intérieur, extérieur. Avec toute l'existence, mais sans avoir besoin de saisir quoi que ce soit de l'existence, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et dans l'exercice de la méditation, quand les choses deviennent simples, qu'il n'y a plus d'obstacles, que le corps est juste là, que le cœur est juste là ouvert, que le mental est peut-être un peu actif, mais absolument pas impactant. Nous pouvons sentir cette générosité royale. Nous devenons, quelqu'un disait en entretien, je me sens une princesse. Ah ouais! Et après, ça change. Mais nous pouvons reconnaître, apprécier, remercier. Faire pour rien. Il y a cette petite histoire qui me vient. C'est un monsieur qui veut marier sa fille et puis il aimerait que les moines du monastère d'à côté, en tout cas qu'un moine du monastère d'à côté, viennent faire des bénédictions pour tous les cadeaux qui vont être donnés. Et puis il va au monastère. Et puis il voit quelqu'un dans le jardin qui est en train de méditer, puis il lui demande, est-ce que vous pourriez venir faire des bénédictions pour juste bénir, parce que ma fille va se marier. Et puis le moine lui dit, ben non, parce que je suis occupé. Et puis le monsieur lui dit, mais vous faites rien. Non, mais je suis occupé à rien faire. Bon, alors il retourne à la maison et puis il revient 2 semaines plus tard, quelques jours plus tard, puis il voit le même monsieur, le même moine en train de méditer, puis il dit, dites, aujourd'hui vous pourriez venir pour faire ces bénédictions. Ben non, parce que je suis occupée. Mais vous faites rien. Ben non, mais j'ai pas fini. Et dans une retraite, c'est vrai que ce qui lâche aussi et qui est tellement bienfaisant, c'est ce sens de l'attente. J'attends toujours quelque chose, que la retraite soit bonne. Puis voilà, quand j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, c'est horrible. J'ai pris 10 jours pour ça, ça marche pas. Ça marche pas. Oh, ça marche pas. Faire pour rien. On ne sait pas ce que ces temps de renoncement vont créer à l'intérieur du corps et de l'esprit. On ne sait pas, même si vous ne continuez pas à méditer, vous ne savez pas quand les fruits de cette retraite vous seront offerts. Mais ils sont là. Et moins nous avons d'attente, moins nous souffrons. On peut bien voir. Je vous lis une parole de Christiane Singer, parole de Seigneur. Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Ma vie, je ne la préserve pas, je ne la garde pas, je la donne. L'innocent qui souffre ne peut pas mourir. On ne peut lui prendre que ce qu'il n'a pas donné. Si tu as tout donné, la vie, la mort, il ne reste rien. Certains appellent cela l'agapé ou l'amour, le seul Dieu qui ne soit pas une idole, celui qu'on ne possède qu'en le donnant. Nous possédons beaucoup en donnant. Bien sûr, en donnant de notre surplus. C'est très beau de partager avec l'autre ce que nous avons de trop. Je me souviens, mon ex-mari, il avait un maître hindou qui disait, en Occident, on devrait donner, je ne sais plus combien, un pourcentage de ce qu'on gagne, mais énorme. C'est vrai, il faut quand même qu'on soit assez authentique. Le moi est pas mal égoïste. Alors, comment faire pour valoriser la générosité tout en acceptant les choses telles qu'elles sont? Ne pas tomber dans la culpabilité. c'est accepter dukkha et comprendre dukkha. C'est dukkha. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Nous préférons nos enfants aux enfants des autres. C'est dukkha. C'est un très fort dukkha, en tout cas pour moi. Un très fort dukkha de vivre dans une telle opulence alors qu'il y en a qui meurent de faim. Et la générosité, c'est d'accepter dukkha et de faire notre part humblement. Et oui, de s'entraider dans cette qualité de fraternité, de solidarité, au mieux. Et lorsque nous sommes avares, avares, pas forcément d'argent ou de biens matériels, mais avares, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Vous faites quoi, vous, quand vous voyez que vous êtes horriblement avare?
Vite. Culpabilité.
Toi, tu culpabilises. Ah ouais. Ça aide pas tellement. Bon, il y a une bonne honte, disons. Mais peut-être que ce qui serait plus radical, c'est de dire, ah ouais, il y a l'avarice. Et de le mettre en lumière. Parce que de culpabiliser, ça ne fait que créer plus de souffrance et ça ne me rend pas plus généreuse. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Alors que si je mets l'avarice en lumière, le processus de purification se fait et les choses deviennent claires. Il y a toute cette... notion de la loi de cause à effet qui se libère. Oh, j'ai plus de petites paroles à vous raconter, mince, j'aime bien finir avec une petite parole. Ah ouais, j'en ai une. Quand vous oubliez le dharma, ça vous arrive d'oublier le dharma? Jamais, toi, t'as de la chance. Quand vous oubliez le dharma, lui ne vous oublie pas. J'en ai une d'histoire chic. C'est quelqu'un qui est mort et puis qui regarde sa vie. Puis il voit des pas dans le sable, et puis à côté de lui, ben, il y a Jésus, ou bien Dieu, ou je ne sais pas, son ange gardien. Puis il y a toujours ces pas comme ça qui marchent. Puis quand il a les grosses épreuves de sa vie, il n'y a plus qu'une trace de pas. Puis il dit à Dieu, mais c'est quand même dingue, tu vois, quand ça n'allait pas, tu me laissais tout seul. Puis Dieu lui dit, mais non, je te portais. Se porter un petit moment.